Ce fut à petits pas réguliers que Séverine s'avança. Il y avait tout un long bout du quai à suivre, sous les yeux qui la regardaient venir. Et elle ne faiblissait pas. Elle appuyait simplement son mouchoir sur ses paupières, dans la grosse douleur qu'elle venait d'éprouver en apprenant le nom de la victime. Vêtue d'une robe de laine noire, très élégante, elle semblait porter le deuil de son protecteur. Ses lourds cheveux sombres luisaient au soleil, car elle n'avait pas même pris le temps de se couvrir la tête, malgré le froid. Ses yeux bleus, si doux, pleins d'angoisse et noyés de larmes, la rendaient très touchante. « Bien sûr qu'elle a raison de pleurer, » dit à demi-voix Philomène. « Les voilà fichus, maintenant qu'on a tué leur bon Dieu. » Lorsque Séverine fut là, au milieu de tout ce monde, devant la portière ouverte du coupé, M. Cauche et Roubaud en descendirent. Et tout de suite, ce dernier commença à dire ce qu'il savait. « N'est-ce pas, ma chère? Hier matin, dès notre arrivée à Paris, nous sommes allés voir M. Grandmorin. Il pouvait être 11h15, n'est-ce pas ?» Il la regardait fixement. Elle répéta d'une voix docile, « Oui, 11h15. » Mais ses yeux s'étaient arrêtés sur le coussin noir de sang. Elle eut un spasme. Des sanglots profonds jaillirent de sa gorge. Et le chef de gare, ému, empressé, intervint, « Madame, si vous ne pouviez supporter ce spectacle, nous comprenons très bien votre douleur. »« Oh, simplement deux mots, » interrompit le commissaire. « Nous ferons ensuite reconduire madame chez elle. » Roubaud se hâta de continuer. C'est alors, après avoir causé de différentes choses, que M. Grandmorin nous annonça qu'il devait partir le lendemain, pour aller à Douainville, chez sa sœur. « Je le vois encore, assis à son bureau. Moi, j'étais ici, ma femme était là. N'est-ce pas, ma chère? Il nous a dit qu'il partirait le lendemain. » « Oui, le lendemain. » M. Cauche, qui continuait à prendre au crayon des notes rapides, leva la tête. « Comment, le lendemain? Mais puisqu'il est parti le soir. » « Attendez donc, » répliqua le sous-chef. Même quand il sut que nous repartions le soir, il eut un instant l'idée de prendre l'express avec nous, si ma femme voulait bien le suivre jusqu'à Douainville, où elle passerait quelques jours chez sa sœur, comme cela était arrivé déjà. Mais ma femme, qui avait beaucoup à faire ici, a refusé. N'est-ce pas? Tu as refusé?
J'ai refusé, oui.
Et voilà. Il a été très gentil. Il s'était occupé de moi, il nous a accompagnés jusqu'à la porte de son cabinet. N'est-ce pas, ma chère?
Oui, jusqu'à la porte.
Le soir, nous sommes partis. Avant de nous installer dans notre compartiment, j'ai causé avec M. Vandorp, le chef de gare, et je n'ai rien vu du tout. J'étais très ennuyé parce que je nous croyais seuls et qu'il y avait dans un coin une dame que je n'avais pas remarquée. D'autant plus que deux autres personnes, un ménage, sont encore montées au dernier moment. Jusqu'à Rouen non plus, rien de particulier, je n'ai rien vu. Aussi, à Rouen, comme nous étions descendus pour nous dégourdir les jambes, quelle n'a pas été notre surprise d'apercevoir, à trois ou quatre voitures de la nôtre, M. Grandmorin, debout, à la portière d'un coupé. « Comment, monsieur le président, vous êtes parti ?»« Ah bien, nous ne nous doutions guère de voyager avec vous. » Et il nous a expliqué qu'il avait reçu une dépêche. On a sifflé, nous sommes remontés vite dans notre compartiment, où, par parenthèse, nous n'avons retrouvé personne. Tous nos compagnons de route s'étant arrêtés à Rouen, ce qui ne nous a pas fait de peine. Et voilà. C'est bien tout, ma chère, n'est-ce pas ?«
Oui, c'est bien tout. »
Ce récit, si simple qu'il fût, avait fortement impressionné l'auditoire. Tous attendaient de comprendre, la face béante. Le commissaire, cessant d'écrire, exprima la surprise générale en demandant « Et vous êtes sûr qu'il n'y avait personne dans le coupé avec M. Grandmorin ?»«
Oh, ça, absolument sûr. »
Un frémissement courut. Ce mystère qui se posait soufflait de la peur, un petit froid que chacun sentit passer sur sa nuque. Si le voyageur était seul, par qui avait-il pu être assassiné et jeté du coupé à trois lieues de là avant un nouvel arrêt du train? Dans le silence, on entendit la voix mauvaise de Philomène. C'est drôle, tout de même. En se sentant dévisagé, Roubaud la regarda, avec un hochement du menton, comme pour dire qu'il trouvait ça drôle, lui aussi. Près d'elle, il aperçut Pequeux et Madame Lebleu, qui hochaient également la tête. Les yeux de tous étaient tournés de son côté. On attendait autre chose. On cherchait sur sa personne un détail oublié qui éclaircirait l'affaire. Il n'y avait aucune accusation dans ses regards ardemment curieux, et il croyait pourtant voir poindre le soupçon vague, ce doute que le plus petit fait parfois change en certitude.
« Extraordinaire, » murmura M. Cauche.
« Tout à fait extraordinaire, » répéta M. Dabady. Alors Roubaud se décida. « Ce dont je suis encore bien sûr, c'est que l'express qui va d'un trait de Rouen à Barentin a marché à sa vitesse réglementaire, sans que j'aie remarqué rien d'anormal. Je le dis parce que, justement, nous trouvant seuls, j'avais baissé la glace pour fumer une cigarette. Et je jetais des coups d'œil au dehors. Je me rendais parfaitement compte de tous les bruits du train. Même à Barentin, ayant reconnu sur le quai M. Bessières, le chef de gare, mon successeur, je l'ai appelé, nous avons échangé trois paroles, tandis que, monté sur le marchepied, il me serrait la main. N'est-ce pas, ma chère? On peut l'interroger, M. Bessières le dira. Séverine, toujours immobile et pâle, son fin visage noyé de chagrin, confirma une fois de plus la déclaration de son mari. Il le dira, oui. Dès ce moment, toute accusation devenait impossible. Si les Roubaud remontaient à Rouen dans leur compartiment, y avaient été salués à Barentin par un ami. L'ombre de soupçon que le sous-chef croyait avoir vu passer dans les yeux s'en était allée. Et l'étonnement de chacun grandissait. L'affaire prenait une tournure de plus en plus mystérieuse. Voyons, dit le commissaire, êtes-vous bien certain que personne à Rouen n'a pu monter dans le coupé après que vous avez eu quitté M. Grandmorin ? Évidemment, Roubaud n'avait pas prévu cette question, car pour la première fois, il se troubla, n'ayant sans doute plus la réponse préparée d'avance. Il regarda sa femme, hésitant. « Oh, non, je ne crois pas. On fermait les portières, on sifflait. Nous avons eu bien juste le temps de regagner notre voiture. Et puis le coupé était réservé, personne ne pouvait monter, il me semble. » Mais les yeux bleus de sa femme s'élargissaient, devenaient si grands qu'il s'effraya d'être affirmatif. « Après tout, je ne sais pas, oui, peut-être quelqu'un a pu monter. Il y avait une vraie bousculade. » Et à mesure qu'il parlait, sa voix se refaisait nette. Toute cette histoire nouvelle naissait, s'affirmait. Vous savez, à cause des fêtes du Havre, la foule était énorme. Nous avons été obligés de défendre notre compartiment contre des voyageurs de deuxième et même de troisième classe. Avec ça, la gare est très mal éclairée, on ne voyait rien. On se poussait, on criait dans la cohue du départ. Ma foi, oui, il est très possible que, ne sachant comment se caser, ou même profitant de l'encombrement, quelqu'un se soit introduit de force dans le coupé à la dernière seconde. Et s'interrompant, « Ah, ma chère, c'est ce qui a dû arriver. » Séverine, l'air brisé, son mouchoir sur ses yeux meurtris, répéta « C'est ce qui est arrivé, certainement. » Dès lors, la piste était donnée. Et sans se prononcer, le commissaire de surveillance et le chef de gare échangèrent un regard d'un air entendu. Un long mouvement avait agité la foule qui sentait que l'enquête était finie et qu'un besoin de commentaires tourmentait. Tout de suite, des suppositions circulèrent. Chacun avait une histoire. Depuis un instant, le service de la gare se trouvait comme suspendu. Le personnel entier était là, obsédé par ce drame. Et ce fut une surprise que de voir entrer sous la marquise le train de 9h38. On courut, les portières s'ouvrirent, le flot des voyageurs s'écoula. Presque tous les curieux, d'ailleurs, étaient restés autour du commissaire, qui, par un scrupule d'homme méthodique, visitait une dernière fois le coupé ensanglanté. Pequeux, gesticulant entre Madame Lebleu et Philomène, aperçut à ce moment son mécanicien, Jacques Lantier, qui venait de descendre du train et qui, immobile, regardait de loin le rassemblement. Il l'appela violemment de la main. Jacques ne bougeait pas. Enfin, il se décida, d'une marche lente. « Quoi donc ? » demanda-t-il à son chauffeur. Il savait bien. Il n'écouta que d'une oreille distraite la nouvelle de l'assassinat et les suppositions que l'on faisait. Ce qui le surprenait, le remuait étrangement, c'était de tomber au milieu de cette enquête, de retrouver ce coupé entrevu dans les ténèbres, lancé à toute vitesse. Il allongea le cou, regarda la mare de sang caillé sur le coussin, et il revoyait la scène du meurtre. Il revoyait surtout le cadavre, étendu en travers de la voie, là-bas, avec sa gorge ouverte. Puis, comme il détournait les yeux, il remarqua les Roubaud, pendant que Pequeux continuait à lui raconter l'histoire, de quelle façon ces derniers étaient mêlés à l'affaire, leur départ de Paris dans le même train que la victime, les dernières paroles qu'ils avaient échangées ensemble à Rouen. L'homme, il le connaissait pour lui serrer la main parfois depuis qu'il faisait le service de l'express. La femme, il l'avait entrevue de loin en loin. Il s'était écarté d'elle, comme des autres, dans sa peur maladive. Mais à cette minute, ainsi pleurante et pâle, avec la douceur effarée de ses yeux bleus sous l'écrasement noir de sa chevelure, elle le frappa. Il ne la quittait plus du regard, et il eut une absence. Il se demanda étourdi pourquoi les Roubaud et lui étaient là, comment les faits avaient pu les réunir devant cette voiture du crime, eux de retour de Paris la veille, lui revenu de Barentin à l'instant même. « Oh, je sais, dit-il tout haut, interrompant le chauffeur. J'étais justement là-bas, à la sortie du tunnel cette nuit, et j'ai bien cru voir quelque chose, au moment où le train a passé. » Ce fut une grosse émotion, tous l'entourèrent. Et lui, le premier, avait frémi, étonné, bouleversé de ce qu'il venait de dire. Pourquoi avait-il parlé, après s'être promis si formellement de se taire? Tant de bonnes raisons lui conseillaient le silence, et les mots étaient inconsciemment sortis de ses lèvres, tandis qu'il regardait cette femme. Elle avait brusquement écarté son mouchoir pour fixer sur lui ses yeux en larmes qui s'agrandissaient encore. Mais le commissaire s'était vivement rapproché. « Quoi? Qu'avez-vous vu ?» Et Jacques, sous le regard immobile de Séverine, dit ce qu'il avait vu. Le coupé éclairé passant dans la nuit à toute vapeur, et les profils fuyants des deux hommes, l'un renversé, l'autre le couteau au poing. Près de sa femme, Roubaud écoutait, en fixant sur lui ses gros yeux vifs. « Alors, demanda le commissaire, vous reconnaîtriez l'assassin ?»«
Oh, ça non, je ne crois pas. »
« Portait-il un paletot ou une blouse ?»«
Je ne pourrais rien affirmer. Songez donc, un train qui devait marcher à une vitesse de 80 kilomètres. »
Séverine, en dehors de sa volonté, échangea un coup d'œil avec Roubaud, qui eut la force de dire « En effet, il faudrait avoir de bons yeux. »«
N'importe, conclut M. Cauche, voilà une déposition importante. Le juge d'instruction vous aidera à voir clair dans tout ça. M. Lantier et M. Roubaud, donnez-moi vos noms bien exacts pour les citations. »
C'était fini. Le groupe des curieux se dissipa peu à peu. Le service de la gare reprit son activité. Roubaud, surtout, dut courir s'occuper de l'omnibus de 9h50, dans lequel des voyageurs montaient déjà. Il avait donné à Jacques une poignée de main plus vigoureuse que de coutume. Et celui-ci, resté seul avec Séverine, derrière Madame Lebleu, Pequeux et Philomène, qui s'en allaient en chuchotant, s'était cru forcé d'accompagner la jeune femme sous la marquise, jusqu'à l'escalier des employés, ne trouvant rien à lui dire, retenu pourtant près d'elle, comme si un lien venait de se nouer entre eux. Maintenant, la gaieté du jour avait grandi, le soleil clair montait vainqueur des brumes matinales, dans la grande limpidité bleue du ciel, pendant que le vent de mer, prenant de la force avec la marée montante, apportait sa fraîcheur salée. Et comme il la quittait enfin, il rencontra de nouveau ses larges yeux, dont la douceur terrifiée et suppliante l'avait si profondément remué. Mais il y eut un léger coup de sifflet. C'était Roubaud qui donnait le signal du départ. La machine répondit par un sifflement prolongé, et le train de 9h50 s'ébranla, roula plus vite, disparut au loin, dans la poussière d'or du soleil.